Dans un premier temps, je vais rappeler les objectifs et les moyens qu'on s'est donnés pour atteindre ces objectifs. Donc, le but, c'est avant tout de faciliter les ACV pour des systèmes spécifiques, de pouvoir comparer des filières, des options entre elles, pouvoir faire de l'aide à la décision, et également de faciliter la diffusion des outils ACV pour les personnes non experts. Enfin, on peut, en dernier objectif, identifier les paramètres clés qui nous permettent de réduire les impacts des systèmes considérés. Donc pour la réussite de ces objectifs, on s'est donné plusieurs moyens. Donc en fait, c'est par la réalisation, la construction de modèles ACV paramétrés, qui est à la fois un moyen, un objectif en soi, qui nous permet ensuite la diffusion de systèmes paramétrés qui permettent d'étudier des ACV pour les systèmes spécifiques. On étudie la variabilité donc de sortie des impacts environnementaux des systèmes, qui nous permet ensuite de les comparer entre eux, en ayant une vue sur leur écart type et sur leur distribution réelle. Et enfin, on identifie les paramètres clés afin de construire des modèles analytiques simplifiés qui permettent ensuite la diffusion des outils ACV pour les non-experts. Donc, la démarche que nous avons suivie au sein du projet ACV, c'est à la fois donc la construction d'un protocole qui détaille les étapes de ce travail, qui détaille en fait comment réaliser un tel inventaire paramétré. On a construit une librairie en Python qui implémente ce protocole, donc qui permet de faciliter toutes ces étapes, qui est la plus facile d'utilisation possible. Et on a réalisé ce travail en fait sur des cas d'études concrets sur des systèmes énergétiques. Donc, les exemples que je vais donner dans cette présentation sont issus de l'étude de systèmes photovoltaïques, mais on a également validé ce protocole et la librairie sur l'éolien flottant et la géothermie. Le protocole, donc, même s'il a été développé sur des développements de systèmes énergétiques, peut être généralisable à d'autres usages. On verra par la suite comment. Donc, la librairie qu'on a développée s'appelle LCA Algébraïque. La spécificité, donc, c'est une librairie écrite en langage Python, qui est distribuée en open source. On vous donnera ensuite tous les liens, les références qui vous permettront de l'installer librement et gratuitement sur vos systèmes. Cette librairie est basée sur deux autres travaux open source. L'une, c'est Brightway 2, qui est une librairie d'ACV en Python qui a été développée par Chris Mutel. Et la deuxième librairie s'appelle SymPy, c'est une librairie de calcul symbolique en Python. En fait, le but de cette librairie est d'amener une expression algébrique des inventaires plutôt qu'une expression numérique. L'expression algébrique permet à la fois de manipuler ces formules algébriques et d'arriver ensuite à construire des modèles simplifiés qui soient des formules mathématiques, et permet aussi de faire des optimisations techniques qui permettent de faire des analyses statistiques d'un très grand nombre de cas. Donc, on peut faire des ACV, des tirs de Monte Carlo, de plusieurs centaines de milliers, voire un million de tirs, ce qui nous permet ensuite de faire des analyses statistiques dessus. Donc la librairie en fait fournit à la fois des fonctions qui soient. En fait, on a essayé de rendre l'interface à Brightway un peu plus simple. Elle peut être complexe et verbeuse. Donc le but, c'était également de rendre l'expression des inventaires le moins verbeux possible et le plus accessible. On a construit quelques fonctions utilitaires par-dessus les fonctions de Brightway. Donc, toute cette librairie-là vous sera présentée dans un atelier cet après-midi pour certains d'entre vous. Ensuite, elle fournit également donc toutes les fonctions statistiques qui, une fois construit l'inventaire, permettent de faire les analyses, donc de Monte Carlo, les indices de Sobol qu'on va présenter et l'analyse d'incertitude. Et elle permet enfin la génération automatique et la validation des modèles simplifiés. Donc ça, c'est un aperçu de à quoi ressemble la librairie. En fait, on conseille d'installer la librairie et de l'utiliser sur un système de type Jupyter. Donc Jupyter, c'est une interface web qui permet de rentrer du code Python et d'avoir directement le résultat en dessous, de manière assez interactive et intuitive. Là, c'est l'interface qu'on va utiliser donc pour l'atelier de cet après-midi. Mais on vous donnera toutes les instructions, donc pour ceux que ça intéresse, pour installer ce système à la fois Jupyter et la librairie sur vos systèmes à vous. Donc là, on a un schéma qui schématise le protocole dans son ensemble. On va suivre les différentes étapes avec le cadre jaune qui sera entouré pour chaque étape. Donc pour donner une vue d'ensemble, on va commencer par définir le cadre de définition de l'étude. On va continuer sur la construction du modèle lui-même avec l'identification des paramètres d'entrée clés, des paramètres d'entrée génériques, l'implémentation du modèle. Ensuite, la troisième étape est la caractérisation des incertitudes et de la variabilité des paramètres d'entrée. Une fois qu'on a construit le modèle et qu'on a caractérisé les incertitudes des paramètres d'entrée, on peut faire de l'analyse. Donc, on a plusieurs outils d'analyse. L'analyse locale qui vous a été présentée tout à l'heure par Paola, donc une analyse simple. Et ensuite, des analyses globales basées sur des tirs de Monte Carlo qui permettent à la fois d'avoir une distribution fine des résultats, des impacts et d'identifier les paramètres clés. Donc, une fois qu'on a identifié ces paramètres clés, on peut, avec la librairie, générer des modèles simplifiés et les valider contre le modèle de référence. Donc, on va commencer par la définition du cas d'étude. Donc, avant de se lancer dans la construction d'un modèle, il faut avoir choisi l'unité fonctionnelle qu'on veut évaluer. Donc, dans le cadre des systèmes énergétiques que nous avons étudiés, il y a deux unités fonctionnelles possibles, qui est soit la puissance installée, soit l'énergie totale produite au cours de la durée de vie du système. Donc, le but ensuite, c'est de rapporter les sorties du modèle à cette unité fonctionnelle pour pouvoir avoir des résultats comparables d'un système ou d'une filière à une autre. Donc, cette unité fonctionnelle, selon les systèmes que vous construisez, vous, pourra être différente. Typiquement, pour un véhicule, ça peut être le nombre de kilomètres parcourus pendant sa durée de vie. Donc, voilà, c'est adaptable. Il faut ensuite choisir une base de données qui vous donneront toutes les inventaires de background. Les bases de données, toutes les bases de données supportées par Brightway 2 potentiellement peuvent fonctionner. En pratique, dans le cadre du projet Insert CV, on a utilisé uniquement la base de données Echo Invent. On conseille parce qu'elle fonctionne, on conseille son utilisation, elle a bien fonctionné pour nous. Mais potentiellement, vous pouvez utiliser, la plupart des bases de données sont supportées par Brightway. Donc ensuite, dans la définition du cadre, il y a le choix des impacts environnementaux et des méthodes de caractérisation associées. Donc pareil, c'est un choix qui dépend de type d'étude que vous voulez, établir. En pratique, les méthodes de caractérisation viennent avec la base de données que vous choisissez. Est-ce qu'on peut juste revenir à la slide press? Et enfin, il faut choisir le domaine d'application. En fait, c'est l'étendue des systèmes qu'on va étudier. Donc, quelles sont les technologies et sous-technologies qu'on considère? Dans le cadre d'un système énergétique, c'est quelle est l'implantation finale de ce système, donc dont va dépendre la ressource énergétique associée. Enfin, plutôt en paramètre de background, c'est quels vont être les mix électriques utilisés pour la fabrication des parts du système et quel va être le dimensionnement du système final, donc la puissance installée typiquement.
Donc, ça c'est.
Oui, pardon.
On ne voit plus la présentation.
Ah. Quelqu'un a repris le. Je vais repartager mon écran. Là.
Ok. Ouais.
Ok, c'est bon.
Oui, c'est tout. Okay. Merci.
Donc voilà, ce domaine d'application est adaptable à d'autres types de systèmes, mais principalement, c'est à la fois des questionnements sur quelles sont les technologies, donc les choix des éléments de background, et aussi quel est le dimensionnement et l'installation du système final, donc plutôt des choix de foreground. Ensuite, après avoir défini le cadre, il faut identifier les paramètres du système qu'on va faire varier au cours de l'étude. Donc, on recommande, pour n'oublier aucun paramètre possible, à la fois de considérer toutes les phases d'un cycle de vie et également, au niveau spatial, de considérer tous les sous-éléments de votre système. Donc, dans les trois cas d'étude qu'on a considérés, on est souvent retombé sur des paramètres similaires, Donc, il y avait à la fois des paramètres donc, de type discret, pour le coup, qui permettaient de choisir entre des technologies A ou B, des technologies émergentes. Il y a également, donc, en paramètres de background, le mix électrique considéré, typiquement qu'on a modélisé aussi souvent par un paramètre discret qui nous permet de choisir entre les mix les plus courants pour le système considéré, donc typiquement nos panneaux solaires, ce qui viennent de Chine, d'Inde ou d'Europe. Ensuite, des paramètres de recyclage, à la fois en amont, c'est-à-dire la quantité de matériaux recyclés qu'on utilise pour la fabrication de notre système, et en aval, en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait du système. On a également des paramètres qui nous permettent de faire varier donc les paramètres de transport, donc depuis le site de production jusqu'à l'utilisation finale. Enfin, la durée de vie du système et la puissance installée, donc ça revient au dimensionnement total du système. Donc, c'est des exemples, mais qui étaient vraiment, enfin, qu'on a retrouvé en tout cas pour la modélisation de systèmes énergétiques systématiquement. Donc là, en exemple, c'est un schéma qui présente la trentaine de paramètres qu'on a utilisés pour le cas des systèmes photovoltaïques. Donc, on retrouve les différentes phases du cycle de vie, fabrication, installation, transport, installation, opération et fin de vie. Donc voilà, on arrive aussi à un système relativement complexe avec une trentaine de paramètres. On va voir par la suite que l'application du protocole nous permet de descendre à un nombre bien inférieur de paramètres. Donc ensuite, on donne des conseils sur l'implémentation du modèle à proprement parler, donc de l'inventaire de notre système. On a utilisé deux approches différentes. Soit on part en fait d'un inventaire existant dans la base de données que vous avez choisi et on paramétrise celui-ci. Donc en fait, on transforme des quantités dans l'inventaire, des quantités qui sont statiques, on les paramétrise et on utilise des formules qui font intervenir les paramètres qu'on a définis précédemment. Soit on construit depuis zéro notre système en utilisant toujours des activités de background et en construisant petit à petit en pyramide jusqu'à notre système final. C'est la méthode qu'on a choisie pour le photovoltaïque, donc en se basant sur des sous-éléments. Et là, pour l'atelier de cet après-midi, en fait, on utilisera un modèle simplifié de photovoltaïque et vous pourrez en fait toucher du doigt un peu ce mécanisme-là, à la fois de choisir les bonnes activités de background et de construire petit à petit le modèle complet. Donc, pour chaque inventaire, chaque étape de construction d'inventaire, on utilise soit des quantités fixes, soit des expressions arithmétiques qui font intervenir les paramètres. Donc, la librairie LC algébrique vous permet d'exprimer des expressions arithmétiques de ces paramètres. Donc, en fait, vous écrivez des formules mathématiques libres qui vous permettent de faire intervenir ces paramètres. Et elles sont ensuite traduites dans le modèle. Et simplifié par la suite pour la construction de modèles simplifiés. Le modèle, une fois construit, doit être normalisé par l'unité fonctionnelle choisie, donc divisé par celui-ci. Et une fois que le modèle est construit, il y a une étape nécessaire de validation contre la littérature, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit un modèle de référence complet, le but, c'est de choisir des paramètres qui reflètent des systèmes spécifiques dont on a des évaluations ACV dans la littérature et de vérifier que les sorties, que notre évaluation des impacts correspond et est compatible avec ce qu'on trouve par ailleurs dans la littérature ou d'autres ACV. Donc, on vous montrera également dans l'atelier comment faire cette validation. Une fois qu'on a construit donc, le modèle complet, il s'agit maintenant d'évaluer les incertitudes de nos paramètres d'entrée. Donc, on a besoin à minima d'avoir les bornes min et max de ces et les valeurs par défaut de ces paramètres. Si on veut aller plus loin, si on veut faire des méthodes statistiques qui utilisent des méthodes de Monte Carlo, il nous faut une distribution approximative de probabilité des paramètres d'entrée. À cette étape, souvent, si on se rend compte qu'il est nécessaire de changer légèrement les paramètres, donc, enfin, nous, c'est ce qu'on a eu à faire. Donc, éventuellement, il faut changer les paramètres pour garantir une indépendance des paramètres d'entrée. Donc pour la validation, pour que les études statistiques soient valides, il faut absolument que les paramètres soient indépendants entre eux et qu'il n'y ait pas des paramètres qui dépendent ou qui soient corrélés à d'autres paramètres. Donc ça oblige à faire des changements de base ou introduire des paramètres tierces dont dépendent deux autres, par exemple. Il peut aussi être utile de changer ces paramètres pour faciliter la quantification des incertitudes. Donc typiquement, pour le cas du photovoltaïque, on avait des paramètres d'entrée qui peuvent être utiles pour définir un système spécifique, typiquement l'angle d'installation du panneau solaire ou l'endroit géographique où il est installé pour évaluer en fait, la ressource solaire. Mais il est difficile d'évaluer l'incertitude de ces paramètres-là. Donc, quelle est la distribution d'inclinaison, d'installation des panneaux solaires sur toutes les installations, c'est compliqué à évaluer. Donc, on a intégré tous ces paramètres en un paramètre unique qui était le productible par puissance installée. Et pour ça, on a utilisé une base de données utilisateurs qui est fournie par les utilisateurs qui installent des panneaux solaires sur leur toit et qui donne une évaluation année par année du productible réel qu'ils ont, de l'énergie réelle qu'ils ont produite. Et en récupérant cette base, ça nous a permis d'avoir une quantification très fine de ces deux paramètres. Donc voilà. En fait, il peut y avoir un modèle qui soit utile quand on veut évaluer un système spécifique, mais qu'il faut légèrement modifier pour l'analyse d'incertitude. Donc les sources qui peuvent être utiles à cette étape, on a utilisé plusieurs sources diverses, donc à la fois la littérature en la matière, donc qui décrivent les dernières avancées technologiques et les technologies émergentes, des catalogues constructeurs aussi, qui sont souvent très riches pour avoir des informations techniques, typiquement sur les transformateurs de nos systèmes photovoltaïques. On avait toute une gamme de transformateurs pour les petits systèmes, les gros systèmes, quelle était leur masse, donc la quantité de matériaux utilisés, quelles étaient leurs performances énergétiques, etc. Donc ça, c'est une source d'information très utile pour quantifier les paramètres d'entrée. On a fait aussi appel à des études de marché. Donc ça, typiquement, ça nous a été utile pour quantifier le mix énergétique d'entrée, savoir en fait quelle était la part de panneaux qui étaient produits en Chine, produits en Inde, et pouvoir ensuite faire varier et donner un poids aux différentes possibilités de mix énergétique. Dans le cadre de systèmes énergétiques, on s'est basé également sur des atlas de ressources, donc atlas de ressources solaires et éoliens qui permettent d'étudier la variation du productible. Et enfin, comme j'expliquais tout à l'heure, des sources en open data, donc à la fois les open data publics fournis par l'État et des bases de données de crowdsourcing, donc des passionnés qui mettent à disposition des données précises sur leurs installations domestiques qui nous ont permis d'avoir une évaluation assez fine de l'incertitude du productible. Donc l'outil InsertACV permet de modéliser plusieurs types de distributions. Donc en partant des distributions, donc si, pour les paramètres pour lesquels on a vraiment peu d'informations ou pas d'informations, on recommande de s'en tenir à une simple distribution uniforme, donc qui suppose une distribution uniforme entre les bornes minimum et maximum. Pour les paramètres de type discret, donc les choix de technologie ou les paramètres booléens. On a une distribution donc de choix discrets auxquels on peut assigner un poids. On a aussi utilisé beaucoup les distributions triangulaires. La distribution triangulaire en fait permet, donc vous la voyez à droite, c'est une distribution en fait qui permet de donner un poids plus important à une valeur en particulier et un poids quasiment nul aux valeurs extrêmes. Donc ça, c'est très utile pour les choix technologiques, typiquement. On utilise en fait la valeur par défaut, la valeur courante actuelle comme étant celle ayant la probabilité la plus forte, et les bornes extrêmes étant souvent les valeurs émergentes ou les valeurs obsolètes. Donc ça permet d'avoir en fait, c'est un bon compromis entre une distribution uniforme pour laquelle on n'a aucune valeur, aucune information, et vraiment les distributions les plus fines pour lesquelles on a des informations très fines. Donc typiquement, quand on a des catalogues constructeurs avec et des études de marché avec les valeurs les plus couramment utilisées. On utilise ça, on utilise une distribution triangulaire en donnant la valeur par défaut à la valeur la plus usuelle, la plus utilisée. Donc enfin, pour lesquelles on a des distributions fines, on peut simuler ça par des distributions normales ou des distributions bêta qui permettent vraiment de simuler les distributions les plus classiques qu'on retrouve. Donc une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a construit notre modèle et qu'on a une évaluation des paramètres d'entrée, on peut fournir tout ça au système qui va faire pour nous des analyses à la fois locales et globales pour obtenir des résultats et pour obtenir une analyse statistique des incertitudes. Donc l'analyse des impacts, on a deux approches séparées. Donc une approche très simple que vous avez présentée Paola, qu'on appelle one at a time, qui consiste à faire varier chaque paramètre, un paramètre à la fois, dans son domaine du minimum au maximum, tout en gardant tous les autres paramètres à leur valeur par défaut. Donc ça nous permet en sortie d'avoir une variation, un premier aperçu de la variation des impacts, min et max, mais sans avoir une réelle estimation statistique de quelle est la répartition de ces impacts à l'intérieur des bornes min-max. On a également un premier aperçu de la contribution de chaque paramètre à la variation totale, mais sans avoir leur importance relative. Donc, on a une importance absolue de la contribution de chaque paramètre qu'on peut représenter ensuite dans le graphe que je vais vous présenter, le heatmap. Il y a des limitations en fait à cette approche OAT qui peuvent cacher des contributions possibles de paramètres dans le cas où on a des contributions croisées. Je vous donnerai un exemple par la suite, un exemple typique de cette limitation. Donc ensuite, on peut, si on a obtenu pour nos paramètres d'entrée des distributions assez fines, on peut procéder à une approche statistique et faire ce qu'on appelle les tirs de Monte Carlo. Donc en fait, ça consiste à faire des tirs aléatoires, un grand nombre de tirs aléatoires, en faisant suivre aux paramètres d'entrée leur distribution statistique. Et en sortie, en ayant, on pourra avoir donc les distributions statistiques de sortie avec des caractéristiques statistiques qui sont la moyenne, la forme, l'écart type de cette distribution. On va également utiliser des indices de Sobol, qui sont en fait une décomposition de la variance des impacts de sortie, qui nous permettra d'avoir la part exacte du rôle de chaque paramètre dans cette variance totale et de choisir ensuite les paramètres prépondérants. Donc là, c'est une capture d'écran de l'outil. Donc pour un paramètre sélectionné, donc ici le productible annuel, on voit en fait la variation de chacun des impacts choisis. Donc là, on avait 9 impacts différents. Donc ça nous permet en fait d'avoir un premier aperçu. On voit en fait quelles sont les bornes min et max et l'évolution de cet impact en fonction de l'évolution du productible. Donc en abscisse, on a le paramètre et en ordonnée, donc l'impact. On peut aussi avoir donc les informations pour tous les paramètres à la fois et tous nos impacts de sortie sur une seule vue, donc ce qu'on appelle une heat map. Donc on a en fait sur chaque case la contribution d'un paramètre à un impact donné, et en fait c'est la variabilité en pourcentage de la moyenne de cet impact. Donc en fait on peut voir là déjà avec donc cette analyse one at a time assez simple, on peut dégager 3 types de paramètres. Vous avez les paramètres qui sont prépondérants dans tous les cas. Donc, typiquement, ici, on voit le productible annuel ou la durée de vie du modèle, donc qui ont un impact systématique sur tous les types d'impacts. Il y a certains impacts qui apparaissent mineurs dans tous les cas, comme le ratio de couverture au sol ou le taux de dégradation, typiquement. Et d'autres paramètres pour lesquels c'est plus complexe et qui sont prépondérants pour certains types d'impacts et mineurs dans d'autres cas. Mais on verra par la suite que, en fait, typiquement, là, on a la variation absolue de ces paramètres pour les impacts, mais ça ne nous permet pas de voir en fait quelle est leur variation relative par rapport aux autres paramètres pour une colonne particulière. Donc, on va considérer par la suite, on va s'attarder sur l'épuisement des ressources. Je vous montrerai plusieurs graphes par rapport à cet impact particulier. Et on verra en fait quelle est la part, quand on fera les indices de Sobol, quelle est la part réelle de ces différents paramètres. Donc ici, on voit ce qui paraissent prépondérants, c'est le produit cible annuel, la durée de vie du module et la part d'aluminium recyclé, ainsi que l'efficacité et la masse du système de montage. Et vous avez aussi le paramètre de toiture qui, lui, est un paramètre booléen, donc soit une installation sur sol, soit une installation sur toit. Donc on verra que ce n'est pas forcément ces paramètres-là où ils ne ressortent pas dans les mêmes proportions quand on passe aux analyses de Sobol plus tard. Donc, on passe à l'analyse globale de sensibilité. Donc, on passe au système statistique. On va faire des analyses de Monte Carlo. Donc, si on fait un grand nombre de tirs en respectant les distributions des paramètres d'entrée, on obtient en sortie la distribution complète de notre paramètre de notre impact de sortie, donc ici encore l'épuisement des ressources. On voit, donc là c'est une capture d'écran encore de l'outil. On a à droite des caractéristiques statistiques, donc mu c'est la moyenne, la médiane, sigma l'écart type sur la moyenne, et on peut aussi sortir des percentiles, donc là le percentile 1 et 99 qui correspondent peu ou prou au minimum et maximum observable des impacts. Donc typiquement, on voit ici une forme qui ressemble à une somme de deux normales. Là, c'est dû en fait au cas spécifique du photovoltaïque pour l'épuisement des ressources. On a deux profils très différents selon qu'il s'agit d'une installation sur sol ou sur toit. En fait, sur sol, on a besoin de beaucoup plus de matériaux pour les systèmes de montage et les structures porteuses. Donc en fait, on voit que on a la première normale qui correspond en fait, à l'impact de structures sur toit et complété par l'impact des structures sur sol. Donc, ça nous permet, en fait, on voit ici qu'on a beaucoup plus d'informations que simplement ce qu'on avait pour l'analyse one at a time. On avait vraiment les mines et les max et des variations globales pour chaque paramètre. Là, on a vraiment une vue d'ensemble. Donc, une fois qu'on a ces tirs de Monte Carlo nombreux, on peut faire dessus une décomposition de variance. Donc en fait, on calcule ce qu'on appelle les indices de Sobol. Les indices de Sobol sont le rapport entre la variance due à un paramètre XI en particulier sur la variance totale, donc Y c'est l'impact, la variance totale de l'impact. Donc ces indices de Sobol sont des nombres entre 0 et 1. On se limite ici aux indices de Sobol d'ordre 1. Les indices de Sobol d'ordre supérieur sont souvent minoritaires et nécessiteraient beaucoup plus de calculs en fait. Donc, on a fait plusieurs tests et l'outil, dans l'outil, on considère uniquement les indices de Sobol d'ordre 1. Et la caractéristique des indices de Sobol font qu'en fait, la somme des indices de Sobol pour tous les paramètres se rapproche tend vers 1. Et donc, tout le but du jeu ensuite, c'est de choisir les premiers paramètres les plus prépondérants qui nous permettent de se rapprocher le plus possible de l'explication totale de la variance, mais tout en limitant le nombre de paramètres et en ayant un modèle relativement simplifié. Donc là, on a une deuxième heat map, mais qui cette fois n'est pas celle de l'analyse one at a time, mais des indices de Sobol. Donc on n'a plus une contribution absolue de chaque paramètre, une contribution relative par rapport aux autres paramètres dans le même impact. Donc on retrouve ici pour l'épuisement de ressources la contribution relative de chacun des paramètres. Et en fait, on voit intuitivement, typiquement, donc on a l'impact de toiture qu'on avait déjà tout à l'heure, mais il y a d'autres impacts qui paraissaient prépondérants tout à l'heure et en fait qui relativement aux autres paramètres sont mineurs, typiquement la puissance installée ou la part d'aluminium recyclé qui paraît quand même moindre. Et on voit d'un coup d'œil tout de suite qu'on peut qu'avec en sélectionnant le paramètre toiture, le product type annuel, la durée de vie du module et la part d'aluminium recyclé, on peut dépasser les 80%, donc les 0,8 de variance expliquée. Donc ça, c'est le protocole cet algorithme intuitif de choix des paramètres clés, c'est celui qu'on a implémenté dans notre système. Donc en fait, on choisit d'abord le seuil de variance expliqué. Donc ça va être un compromis entre le nombre de paramètres, la simplification du modèle qu'on veut obtenir et la fiabilité de ce modèle simplifié. Donc, on conseille d'utiliser 80% de variance. On a trouvé que c'était un bon compromis entre ces deux critères. On fait ensuite le tri des paramètres. Donc, pour l'impact considéré, le tri des paramètres par indice de Sobol décroissant. Donc, ce protocole est à réaliser à chaque fois pour chaque impact. On peut obtenir des paramètres qui sont différents selon les impacts. Et on va choisir les n premiers paramètres qui nous permettent d'obtenir une somme de variance supérieure à 80% de la variance totale. Donc, une fois qu'on a sélectionné ces paramètres prépondérants, on peut obtenir des modèles simplifiés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part du modèle de référence, le modèle complet qu'on a construit précédemment. Pour chaque activité de background référencée dans ce modèle, on la remplace par la valeur de son impact pour l'impact considéré. Chaque paramètre secondaire est remplacé soit par la moyenne, soit par la médiane de cette probabilité pour ce paramètre. Selon les systèmes, on a utilisé soit la moyenne, soit la médiane. Et selon les systèmes, ça donne des résultats plus ou moins bons. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'essayer les deux et de voir ceux qui produisent les modèles simplifiés les plus fiables par rapport au modèle de référence. Ensuite, chaque valeur numérique restante est arrondie à 3 chiffres significatifs. Et enfin, dans les formules, dans les sommes, on ne conserve que les termes des sommes qui contribuent à plus d'1% de cette somme. Donc, on retire les termes des sommes qui sont minoritaires. Donc, en fait, tout ce protocole a été implémenté. Le fait d'utiliser LCA algébrique permet d'avoir une description donc, algébrique formelle du modèle global. Et on a une fonction qui réalise toutes ces étapes-là et qui produit pour vous ces modèles simplifiés. Donc, en fait, on passe, ça, c'est le modèle de référence. Enfin, c'est une partie, c'est un tiers du modèle de référence. Donc, en fait, c'est le développement de tout le modèle. En fait, on part de l'inventaire complet et on développe avec tous les paramètres et la référence à toutes les activités de background. Donc, on a un modèle qui est très complexe. Et en appliquant cet algorithme, on obtient au final ce genre de formule donc, qui peuvent être distribuées et utilisées par des personnes qui ne sont pas du tout des experts de l'ACV. Mais voilà, pour un système donné, ils pourront évaluer l'impact de leur système avec 3 ou 4 paramètres. Donc, on fournit également un outil qui permet d'évaluer la fiabilité de ce modèle simplifié par rapport au modèle de référence. Donc, vous avez ici sur un même graphique la distribution de l'impact, donc toujours l'épuisement des ressources, pour le modèle de référence en bleu et le modèle simplifié en orange. Et on affiche également donc, les caractéristiques statistiques. Donc, on voit que ces caractéristiques sont très proches pour les deux modèles. Donc, on a vraiment les mêmes ordres de grandeur. Et on calcule aussi ce qu'on appelle le R carré, qui évalue en fait, la fiabilité du modèle. Donc, plus on se rapproche de 1, et plus on a un modèle qui est absolument fiable. Ce qu'on a observé, c'est que en se limitant à 80%, à expliquer 80% de la variance des modèles, on obtient des R carrés qui sont également de l'ordre de 80%. Donc, c'est in fine, en fait, la construction de ces modèles simplifiés dans le cas du système photovoltaïque nous ont permis également de produire un outil web qui permet en fait à des non-experts d'évaluer l'incertitude, les impacts et les incertitudes de leur système. Donc, en fait, ils peuvent choisir la catégorie d'impact qui les intéresse, l'unité fonctionnelle qui les intéresse parmi la puissance ou l'énergie totale produite. Et ensuite, ils peuvent jouer avec les paramètres, soit laisser la distribution, les incertitudes d'entrée, soit s'ils ont un système spécifique, s'ils savent par exemple les technologies qu'ils vont utiliser ou leur productible annuel, ils peuvent donc au fur et à mesure réduire cette incertitude et voir en direct s'afficher l'impact réel du système. Donc, c'est des plateformes web qu'on peut imaginer déployer et développer pour d'autres types de systèmes une fois qu'on a généré des modèles simplifiés correspondants. Donc, en conclusion, le protocole et les librairies que nous proposons ont été déjà validés sur les 3 cas d'études qui sont le photovoltaïque, l'éolien flottant et la géothermie. On a obtenu des résultats probants qui nous permettent une évaluation fine de l'incertitude des impacts de sortie. qui nous permettent également de construire des modèles simples. Donc, au maximum, typiquement, sur le photovoltaïque, pour la dizaine d'impacts considérés, on avait au maximum 5 paramètres qui nous permettaient d'expliquer 80% de la variance et qui restent fiables avec un R carré supérieur à 0,8. Et donc, ils nous ont permis de produire des modèles paramétriques de référence réutilisables pour évaluer des systèmes spécifiques. Les limitations de ces études donc se limitent au cadre d'études qu'on définit au départ de la définition du système. Ils se limitent également aux bornes des paramètres d'entrée. Donc, ils ne sont pas extensibles au-delà des bornes qu'on a définies. Et la limitation également de... En fait, le point crucial et le point le plus délicat, ce qui demande qui nous a demandé le plus de travail peut-être, c'est le choix des fonctions de distribution des paramètres d'entrée. Donc, c'est d'arriver à éplucher la littérature et d'obtenir des informations suffisamment fiables et fines qui nous permettent d'avoir une bonne estimation de ces paramètres d'entrée, parce que de cette estimation dépendra en fait les résultats et la distribution des impacts finaux. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on fait un deuxième tour de questions.
Merci beaucoup, Raphaël. On a eu une question dans la conversation de M. Fabrice Del Corso qui se demandait la différence entre les résultats si on faisait varier les paramètres, donc one at a time et tous en même temps. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur cette partie-là?
Oui. Alors, je peux donner un exemple en fait, de la limitation des paramètres one at a time. Il y a une limitation qui est d'ordre de l'interaction entre les paramètres. Typiquement, on va peut-être le voir si je reviens. Ah voilà, le ratio de couverture au sol, et après il apparaît. Voilà. Donc typiquement, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Donc là, on a un paramètre du modèle photovoltaïque qui est le ratio de couverture au sol. Donc c'est en fait pour un système d'installation au sol, quelle est la place que prend le système installé par rapport à la place réelle des panneaux solaires. Et ce paramètre paraît nul ou a quasiment sans importance pour tous les impacts, y compris un impact qui paraît surprenant, qui est l'occupation des terres. Donc même pour l'occupation des terres, on pourrait imaginer pourtant que c'est un impact prépondérant pour ce type de paramètre. Et en fait, la raison, c'est que le paramètre par défaut du paramètre toiture, le paramètre toiture défini si on considère une installation sur toit ou une installation sur sol, par défaut, il est positionné à une installation sur toit. Donc en fait, quand on fait varier le ratio de couverture au sol, il n'a aucun impact parce qu'on considère une installation sur toit. Donc là, ça paraît absolument évident pourquoi on obtient une valeur nulle, mais pour des paramètres et des plus complexes, on peut avoir des interactions qui sont plus fines et plus difficiles à comprendre et qui peuvent cacher des impacts de certains paramètres pour certaines catégories d'impact. Et quand on passe à l'analyse de Sobol, en fait, on voit que dans le cas de l'occupation des terres, le ratio de couverture sur sol, il ressort. Parce que dans le cas de l'analyse de Sobol, on a vraiment des tirs de Monte Carlo pour des milliers de cas aléatoires. Et dans les milliers de cas aléatoires, il y a forcément des cas où on va se trouver dans les bonnes configurations qui vont faire ressortir les interactions croisées entre les paramètres. Donc ça, c'est un premier apport de l'analyse globale. Deuxième apport, c'est vraiment d'avoir l'importance relative en fait, de l'importance de ces paramètres. C'est-à-dire que si on revient one at a time, vous voyez que pour le premier type par an, pour la durée de vie du module, typiquement, ça, c'est deux paramètres qui se retrouvent au quotient du modèle parce qu'en fait, ils quantifient notre valeur d'usage par laquelle on va diviser tout le système. Donc, on a en fait une valeur absolue qui est tout le temps la même pour toutes les catégories d'impact. Mais quand on revient aux indices de Sobol, en fait, on a une part relative. C'est-à-dire, si on a d'autres paramètres qui sont prépondérants, ça va diminuer d'autant la part de l'impact de ces paramètres-là. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vue plus fine de l'impact de chaque paramètre dans la variance globale de notre catégorie d'impact. Je ne sais pas si c'est clair ou si ça répond à la question.
Merci beaucoup. Oui, je pense que ça répond à la question. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Oui, Stéphanie Muller du BRGM. Je vais simplement la lire. Est-ce que l'outil permet également de considérer les incertitudes sur les données d'arrière-plan, telles que
Non.
définies dans la base de données utilisée dans le tirage de Monte Carlo?
Non, justement. Ce qu'on a fait ici, en fait, c'est privilégier des paramètres sur lesquels on a vraiment la main. C'est-à-dire qu'on ignore les paramètres de background. Si on veut avoir une estimation de l'impact de ces variations de background, ce qu'on a fait, c'est introduire des paramètres. Ce qu'on fait typiquement, c'est on prend une activité et on change dans le mix électrique. C'est-à-dire, si on a une activité pour laquelle le mix électrique était fixé, on change pour un mix électrique pour lequel on contrôle en fait la répartition, la distribution. Et quelque part, on a des paramètres qui sont des paramètres de foreground, donc qui vont définir quelle est la constitution de notre système, les technologies utilisées, le dimensionnement, et d'autres qui sont plutôt des paramètres de background qui nous permettent d'affiner en fait les inventaires. Donc, on va construire des inventaires qu'on va amender, qu'on va modifier, où on va changer par exemple la part d'aluminium recyclé pour le système de montage, où on va changer, typiquement c'est ce qu'on a fait sur le photovoltaïque, on a pris les inventaires d'EcoInvent et on les a raffinés avec des technologies émergentes, des techniques de découpe différentes, etc. Donc on ignore totalement les paramètres d'incertitude qui sont présents dans la base de données et on privilégie vraiment au cas par cas les technologies et les variabilités qu'on veut faire apparaître, que ce soit dans le foreground ou dans le background.
Ok, super. On a eu une autre question par rapport à, je vais la lire, de Elori Igos. Il me semble que l'outil ne considère pas les paramètres corrélés. Cela veut dire que les paramètres pour des mix énergétiques ou de matériaux, composition chimique, etc., dont la somme doit être égale à 1, ne peuvent pas être considérés pour l'analyse d'incertitude de sensibilité. Je peux me permettre juste aussi, parce qu'étant donné que j'ai appliqué le protocole pour quantifier un mix électrique aussi, je pense qu'il y a une différence entre les paramètres corrélés et les paramètres qui ensemble sont soumis à une condition. Donc les mix énergétiques, typiquement, le fait que leur somme doit être égale à 1, il y a possibilité de les prendre en compte quand même dans le modèle. Mais il me semble que c'est vrai que les paramètres qui sont effectivement corrélés, ils ne peuvent pas être considérés.
En fait, oui, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est que vous avez la possibilité dans le système d'avoir soit des paramètres booléens, donc qui sont indépendants, soit des paramètres ce qu'on appelle discrets énum. Donc là, en pratique, en interne, c'est plusieurs paramètres booléens, mais qui sont exclusifs. Et donc, dans les tirs de Monte Carlo, quand l'un est à 1, l'autre est à 0, donc ils sont corrélés, on va dire techniquement, mais c'est pris en compte dans le système. Donc ça, c'est un moyen d'avoir des... Ce n'est pas vraiment un paramètre corrélé. C'est prévu, vous pouvez avoir des choix discrets entre plusieurs solutions A, B ou C.
Ensuite, on a une autre question par rapport à la base de données EcoInvent de Kevin pour savoir si on peut prendre aussi en compte des inventaires qu'on aurait créés soi-même. Par exemple, des inventaires d'EcoInvent qu'on aurait adaptés à notre cas particulier.
Oui. En fait, c'est ce qu'on a fait en pratique, c'est-à-dire qu'à la fois, on se base sur des inventaires existants. Donc, il y a certaines activités qu'on a utilisées de la base EcoInvent et d'autres qui n'existaient pas pour des activités spécifiques où vraiment on avait fait une étude sur des technologies émergentes et c'était vraiment très différent de l'inventaire qui existait. Donc là, on refaisait un inventaire depuis zéro. Donc, en fait, l'outil permet à la fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend systématiquement les inventaires de EcoInvent. On fait une base à côté pour ne pas toucher, ne pas casser la base existante. Et soit on copie-colle, donc on duplique les activités existantes et on peut amender les quantités et introduire des paramètres dedans. Soit on peut créer des inventaires depuis zéro ou réutiliser des inventaires qui ont été créés séparément. Quoi.
Et encore une dernière question, je pense, avant qu'on continue, de Sandra Collignon. Est-ce que l'outil sait gérer des données partielles, donc la variabilité connue que sur certains paramètres?
En pratique, c'est ce qu'on a eu aussi. Alors, c'est pas idéal. L'idéal, ça serait d'avoir une variabilité connue pour tous, mais on a fait au mieux. Donc, pour les paramètres qu'on connaissait vraiment, on les a modélisés par des lois normales ou des lois bêta. Et ensuite, on peut aller en dégradant, c'est-à-dire soit avoir des distributions de type triangulaire pour des paramètres pour lesquels on a une connaissance de quelle est la valeur par défaut la plus utilisée, Et ensuite, vraiment, pour ceux pour lesquels on a peu de paramètres, par défaut, en fait, quand on crée un paramètre, il a une distribution uniforme du min au max. Donc ça, c'est un peu le niveau zéro de connaissance. C'est quand on a vraiment que les bornes de min et max, c'est modélisé par un paramètre uniforme. Donc oui, on peut mixer différents niveaux de connaissance par rapport aux paramètres d'entrée. Ouais.
Merci beaucoup, Raphaël.